7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM.
Il est 7h45, merci de débuter la semaine en notre compagnie, ils font l'actu et ils sont sur notre antenne chaque matin. C'est ce rendez-vous, 7h45 en direct, nous sommes en ligne avec la députée de la circonscription, Laurence Vansenbrock, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous auriez dû être en studio avec nous, mais comme des centaines de milliers de Français chaque jour en ce moment, vous avez été ces dernières heures testé positive au Covid. Isolement donc pour vous du coup.
Alors isolement, oui, effectivement, depuis hier soir, tous les deux jours, j'ai envie de vous dire, je fais un autotest en fait pour savoir où en est ma situation. Et il s'est avéré qu'hier soir, donc le test était positif. Donc ce matin, ce midi, j'ai rendez-vous donc à la clinique Saint-François pour un test PCR.
Bien sûr. Bon, c'est la suite. Évidemment, ça va vous handicaper, je dirais, dans vos déplacements, évidemment à l'Assemblée. Là, la règle, c'est évidemment l'isolement.
Ah ben là, effectivement, là, toute la semaine, je suis obligée de remanier l'agenda. Donc, j'avais des rendez-vous ce matin, notamment à Coutances, par exemple. Bon, ben voilà, ça va certainement se faire en visio ou par téléphone. Donc, il faut effectivement adapter un petit peu le travail. Moi, mon travail me permet, en dehors de ce que je fais dans l'hémicycle, effectivement, d'avoir des rendez-vous en visio ou par téléphone. Donc, c'est un peu moins gênant que pour certaines professions qui ne peuvent s'exercer qu'en présentiel.
Alors vous étiez présente en revanche à l'Assemblée nationale la semaine dernière avec ce vote donc instaurant le pass vaccinal plutôt que le pass sanitaire, cette transformation. Vous avez voté pour, bien évidemment.
Alors oui, j'ai voté pour, évidemment, comme vous le dites. Mais d'abord, je voudrais apporter des précisions justement sur ce texte. En fait, il ne s'agit pas d'une obligation vaccinale, comme le prétendent certains. Une obligation vaccinale se pratique sans d'autres dans d'autres pays. Et en l'occurrence, ça voudrait dire que vous vous promenez dans la rue, on peut vous contrôler à n'importe quel moment. Et si vous n'êtes pas détenteur de votre passe vaccinale, vous écopez d'une amende, ce qui n'est pas le cas en France. En France, ça vous permet finalement, en toute sécurité, d'aller dans les lieux de loisirs comme les cinémas, les restaurants. Voilà, donc en fait, il va falloir montrer patte blanche pour effectivement donc bénéficier de ces services. Alors après, il y a eu quelques améliorations aussi à ce texte. On permet justement, que le pass sanitaire, soit suffisant pour les enfants de 12 à 15 ans pour les activités périscolaires, extrascolaires. Ça ne change rien pour les activités scolaires, donc les enfants pourront continuer à aller à l'école avec leur passe sanitaire. Et puis on avait besoin aussi de renforcer les outils pour lutter justement pour les cas de fraude, parce qu'il y a eu énormément de passes sanitaires qui ont été produits et vendus donc à des gens qui n'étaient pas protégés. Et donc on passe d'une amende qui était prévue à l'époque de 135 euros à 1000 euros d'amende. Donc je pense qu'il y aura un petit caractère dissuasif, donc un bénéfice. Donc là on sera certain pardon, que les documents qu'on nous présente seront donc réels. Mmh. Et puis on a amélioré aussi le fait de permettre aux personnes qui font entre guillemets les contrôles de la concordance documentaire à l'entrée des restaurants, par exemple, de pouvoir justement vérifier la concordance entre le pass sanitaire, entre le pass vaccinal, et le pass sanitaire donc pour les enfants avec le document d'identité, puisque alors il y a beaucoup de gens se sont exprimés dans l'hémicycle en disant qu'effectivement c'était un petit peu compliqué de demander à des restaurateurs de contrôler l'identité la concordance documentaire des gens. Mais en l'occurrence, c'est déjà ce qu'on faisait depuis de nombreuses années. Quand on émettait un chèque, personne n'a jamais trouvé à redire. Quant à la caisse du supermarché, on présentait sa carte nationale d'identité, donc justement pour corréler le document avec le chèque.
En tout cas, selon vous, la transformation, là, ce texte et l'instauration de ce pass vaccinal, même si on a bien compris que ce n'était pas une obligation de vaccination, c'est pour vous une solution compte tenu de l'évolution de la situation? C'est la solution?
Alors moi j'invite tous mes concitoyens à se faire vacciner, à faire la dose de rappel, effectivement, parce que c'est pas la principale mesure, j'ai envie de dire que toutes les mesures, c'est-à-dire le port du masque, le passage des mains réguliers au gel hydroalcoolique, les distances entre nous, voilà, et puis effectivement et la vaccination sont sont des solutions, à mon avis, très efficaces pour lutter contre cette pandémie. Alors, vous allez me dire, vous, vous êtes vacciné par 3 fois, ça ne vous a pas empêché d'avoir le Covid. Oui, effectivement, mais en l'occurrence, je suis persuadée de ne pas contracter de forme grave de la maladie et donc je suis protégée d'une éventuelle hospitalisation et je protège également de ce fait les personnels soignants qui sont déjà qui ont des services déjà bien encombrés dans les hôpitaux, on le sait très bien, partout sur le territoire. Donc voilà, si on peut se protéger et aussi protéger les autres, je pense qu'il ne faut pas hésiter et poursuivre son schéma vaccinal.
Ouais, il y avait eu pourtant des menaces de mort, hein. On en avait parlé la semaine dernière sur cette antenne, qui avaient été proférées à votre encontre avec ces 2 mails que vous avez reçus qui vous incitaient à ne pas voter justement ce texte. Vous l'avez dit, je ne vais pas me laisser impressionner.
Oh ben non, ça c'était hors de question. Alors évidemment, à l'inverse, je me refuse à vivre, à ne pas vivre justement. C'est-à-dire que ben ça ne m'a pas empêché de mener à bien les fêtes de fin d'année, parce que j'ai reçu donc le premier message le 28 décembre et le second donc le 2 janvier à la rentrée, et ça ne m'a pas empêché de voter ce texte. Je pense qu'on ne doit pas céder à la menace, qu'on ne doit pas céder aux tentatives de faire en sorte que les choses changent. Moi, j'en ai parlé évidemment autour de moi à mes enfants qui étaient à la maison justement lors des fêtes de fin d'année, et je leur ai dit, est-ce que vous voulez rester, est-ce que vous voulez, enfin je ne voulais pas créer de peur, mais à l'inverse c'était normal que je les informe et puis que je sache ce qu'elles voulaient faire, et au final bon voilà, elles ont fait la fête avec quelques amis et puis ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les effectifs de gendarmerie et de police qui font un travail remarquable et qui je m'en rends compte régulièrement participent à la protection des personnes qui sont justement menacées comme moi.
Très rapidement, pour boucler ce chapitre, les propos du président de la République décidés, je cite, à emmerder les non vaccinés, vous les avez compris ou vous auriez fait différemment?
Alors oui, je les ai compris, mais je pense effectivement que j'aurais peut-être fait différemment. Parce que beaucoup disent qu'effectivement c'est une reprise des termes de Georges Pompidou, d'accord, c'est vrai. Mais moi, en l'occurrence, je pense qu'on peut s'adresser aux Français de plus belle manière, d'autant que c'est en général ce qu'il sait faire. Hein, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un vocabulaire très étendu. Mais par contre, je comprends en fait ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que quand j'écoute mes concitoyens, parce que j'étais hier encore à Montluçon, je discute beaucoup avec les gens que je rencontre, et en fait beaucoup de gens finalement dans leur majorité disent oui, c'est vrai, il a peut-être été un petit peu loin dans sa façon de parler, mais par contre ce qu'il voulait dire était très clair. Et il est vrai que les gens reprennent cette expression, et que effectivement, alors les anti-vax ont le droit d'avoir cette idée différente de celle de nos concitoyens, mais c'est vrai que ça génère finalement un embouteillage dans les services médicaux, comme je le disais tout à l'heure, et finalement ça empêche un petit peu qu'on puisse mettre un frein à cette pandémie, même si moi je reste persuadée que tant qu'on ne fera pas l'effort de proposer des vaccins à l'étranger, et je pense notamment à l'Afrique, si on ne fait pas un geste altruiste envers ces pays, les variants vont continuer à se développer sur ces territoires, et je pense qu'on risque de traîner un petit peu cette pandémie encore quelques années, malheureusement. Enfin, je crois qu'il va falloir qu'on fasse œuvre tous, l'Europe, les États-Unis, enfin les pays dits développés, pour aider en fait ceux qui ont vraiment des problèmes financiers et de gros problèmes de pandémie, pour vraiment enrayer ce phénomène.
Laurence Van Sunbroek, il nous reste 2 minutes à peine et beaucoup de choses à évoquer. On va être serré en timing. Un petit point d'abord sur le projet de loi sur l'interdiction des thérapies de conversion. Où est-ce qu'on en est? C'est un projet que vous portez.
Alors c'est quasiment fini, parce qu'en fait le 25 janvier il y aura ce qu'on appelle la lecture définitive, enfin c'est pas la lecture définitive, mais ce qu'on pourrait appeler un décret d'application, voilà, il va y avoir pas le décret d'application, mais en fait il va y avoir un dernier retour, une dernière lecture donc à l'Assemblée, et comme justement il n'y a pas de décret d'application, ça vaudra donc application, et donc à partir du 25 janvier ce texte sera donc efficace et pourra être utilisé par les victimes pour s'en servir pour leur dépôt de plainte.
Et puis, Laurence Vandenbroeck, c'est une année d'élections législatives. L'année dernière, sur cette antenne, vous aviez indiqué que vous souhaiteriez sans doute repartir, en tout cas briguer un nouveau mandat. Où est-ce que en est votre réflexion aujourd'hui?
Eh bien, c'est toujours à l'état de réflexion. Alors, effectivement, parce que là, bon, en fait, les législatives font suite aux élections présidentielles. Bon, pour l'instant, même si on pense le deviner, notre président n'est toujours pas candidat. Donc, et moi, en ce qui me concerne, il me semble, et beaucoup de mes concitoyens me font la remarque, que effectivement, j'ai fait quand même avancer pas mal de sujets sur le territoire. Alors, évidemment, ce sont des sujets qui mettent du temps à s'installer. Comme je pense toujours à ce train, en fait. Et là, en l'occurrence, on a réussi à obtenir que l'État verse 30 millions d'euros d'aide pour l'ingénierie sur le train Paris-Montluçon. Et puis aussi, j'appuie fortement le dossier, depuis maintenant 2 ans, RAICOP, donc pour cette fois-ci la ligne Bordeaux-Montluçon-Lyon, qui nous rapprocherait donc dans notre capitale régionale. Et puis, j'essaye tant bien que mal d'apporter tout mon soutien au personnel soignant de l'hôpital de Montluçon qui rencontre de grosses difficultés. J'essaie toujours d'appuyer pour l'obtention d'un TEPSCAN et le souci, c'est que Clermont absorbe régulièrement tout ce qui est matériel et humain, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut pas lâcher. Et comme ces dossiers sont en cours et que j'aimerais bien justement pouvoir aller jusqu'au bout de ce que j'ai lancé, voilà, pourquoi pas me représenter effectivement pour les élections de juin de cette année.
Une décision ferme et définitive, quand, du coup, pour vous? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui.
C'est-à-dire que là, si vous voulez, en fait, les travaux parlementaires, déjà, s'achèvent fin février. Donc, d'ici fin février, moi, j'ai absolument besoin d'être au clair dans ma tête et de ne me consacrer qu'à ce travail. Donc, peut-être mars ou avril, on va dire.
Très bien, merci Laurence Vandenbroeck d'avoir été avec nous ce matin, malgré les conditions pas forcément évidentes pour vous. Bien sûr, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Il est 7h57, on continue dans un instant.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.